Pourquoi t'es venu ici, toi?
Au Grand Voisin.
Au Grand Voisin? Ah. J'ai passé souvent ici avec ma femme et mes enfants. Et quand on allait au jardin Luxembourg, là, on passait ici comme ça. Et je voyais des Africains qui sortaient là du travail africain. Et parfois, je voyais des bobos qui sortaient de là, tu vois. J'ai dit, mais c'est pas possible, il y a quelque chose qui cloche là, quelque chose qui ne va pas. C'est des gens qui sont tellement à l'opposé. Et il y a un lieu où, en tout cas, les uns entre les autres sortent. Et c'est quoi ce bordel? Et puis là, je me suis dit, allez, il faut aller voir quand même ce que commencer. Et je suis entré. J'ai regardé, j'ai visité et puis je me dis tiens, merci. C'est un endroit propice pour le travail que je fais. Et c'est comme ça que j'ai pris contact avec une personne qui faisait plus ou moins ce qui se rapprochait de. En tout cas, qui se souciait de faire des soins, de l'acupuncture, du yoga. Et puis je me dis, tiens, je vais prendre contact avec cette personne. Et tout de suite, j'ai eu un cabinet vite, très rapidement, tu vois, en moins de 2 mois, j'ai eu un cabinet, alors qu'il y avait une longue liste d'attente.
Dis-moi, cet endroit où les Africains et les bobos sont ensemble, ça résout pas les problèmes?
Non, mais ça, c'était que, en fait, ils n'étaient même pas ensemble, ils se croisent.
Ils
ne vivent pas ensemble, ils se croisent et de temps en temps, les bobos ou les fils à papa qui sont ici et qui n'ont plus envie de la société dans laquelle ils vivent, il y a des choses qui les dérangent, qui les chagrinent et ils n'ont pas envie de reproduire les mêmes choses, ne plus vivre les mêmes cordes, ne plus vivre les mêmes exigences au niveau professionnel, ne plus se soumettre à des dictats du système libéral et se disent tiens, une petite poche comme ça ou pour se refaire une petite santé sociale, morale. Et ben, en même temps, ça va un moment, mais ils peuvent effectivement, il y a une illusion, que on est toujours dans le même système libéral, même si c'est le lieu. C'est un hôpital désaffecté et on fait du squat et on squat plus ou moins structuré ou organisé, mais ça reste du squat. Et les précaires, quand ils squattent, ils sont dans des galères, c'est des coins de chute et tout ça. Et les bobos, quand ils squattent, c'est classe. T'as une chapelle, t'as une ressourcerie, un restaurant, super, c'est classe. Et les bobos, ils ont tout le réussi. Et ils labellisent, tu vois. Mais ça reste un truc un lieu intéressant, du coup, des choses, et tu apprends des choses sur toi-même.
Ici?
Oui, tu apprends énormément de choses, mais avec. Et tu apprends facilement, en fait. Facilement. Quand tu me dis, qu'est-ce que tu fais? Je dis voilà, mon travail consiste à faire un décryptage, un éclairage sur certains points, à comprendre ce qui se passe dans ton psychisme et à travers ton corps. Voilà. Donc, la démarche elle est très simple, elle est très claire pour moi. Mais les personnes qui vivent ça les interroge, c'est fascinant, c'est déstabilisant, c'est tout ça à la fois. Et
comment tu as appris ça?
Il y a une chose qu'on n'apprend pas. C'est une fois j'ai vu une vieille dame aveugle et que j'ai vu faire au Sénégal sur un garçon qu'on avait travaillé pour la DAS, dans une maison de maison d'enfants, ça s'appelait Providence. Et là, il y a eu un garçon, le plus petit, il devait avoir 3 ans et demi. Et cette dame, on les a amenés, je leur faisais découvrir des techniques, des pratiques, des traditions, des soins traditionnels. Et on est allé voir cette femme guérisseuse et en touchant le bas du dos du garçon, elle nous a dit que ça fait 4 ans que ce garçon a reçu un coup au bas du dos. Et alors que ce garçon avait 3 ans et demi. Et dans son dossier, c'était mentionné que son père avait donné des coups de ranges à sa mère et lorsque qu'elle était en état de grossesse de 3 mois. Donc il n'y avait pas de bleu, elle ne voyait pas, donc elle est aveugle et c'est juste au toucher. Et c'est là où je lui dis, tiens, ça je sais faire, je sais comment tu fais. Elle me répond, oui, je sais que tu sais faire. Et ce moment-là, c'est de cette façon-là que j'étais habilité à le faire. Et donc c'est quelque chose qu'on n'apprend pas, mais il faut que quelqu'un qui sache vous fasse savoir que vous savez. Et en vous disant que vous savez, cette personne vous dit aussi que vous pouvez y aller.
Dans ton cabinet, là, tu as plus de bobos ou d'Africains ?
J'ai très peu d'Africains parce que les Africains qui sont ici, ils n'ont pas les moyens. Ils sont dans une certaine précarité, à la fois une précarité intellectuelle et sociale et financière. Et donc, ils ne vont pas aller s'occuper d'eux. C'est leur thérapie, c'est de pouvoir manger, dormir et peut-être bon, satisfaire les quelques besoins vitaux qui s'imposent à eux. Mais sinon, le reste, ça, ils ne peuvent pas s'inscrire dedans. Ils ont du mal à croire, à adhérer à ça, que ce qui se passe dans leur pays, la pratique qu'il y a dans leur pays, leur culture, ils ne pensent pas que leur culture recèle des connaissances comme ça et que quelqu'un peut se servir de ces connaissances-là et avoir des compétences réelles au point de pouvoir guérir des Africains et à plus forte raison guérir des Européens. C'est impensable pour eux. Et là, j'ai pas envie de les convaincre ou de chercher à les toucher. Et les quelques Européens qui viennent, bon, ils viennent soit par curiosité ou parce qu'ils ont eu quelqu'un qui est venu me voir et qui a eu des résultats efficaces. Parce que c'est clair, un blanc va voir un Africain pour un problème de vie, c'est que cette personne a fait ses preuves. Sinon, ils n'iront jamais le voir. Mais jamais. Ils ne pourront pas croire aucunement parce que pour eux c'est du charlatanisme ou du c'est pas possible quoi. Ça ne c'est on n'a pas les mêmes symboliques, on n'a pas la même façon de penser, nos schèmes de pensée ne sont pas organisés de la même façon et nos langues sont profondément différentes et les langues qui structurent notre psychisme sont très différentes. Et notre rapport au corps est tout à fait autre et notre rapport à l'humain est aussi très très différent et avec toutes ces différences-là, c'est pas possible. C'est plus facile de soigner un Africain pour moi parce que je sais d'emblée la religiosité, la présence de la religiosité, ses croyances, sa façon de voir un peu le monde et très vite ça se voit, je connais et donc du coup je peux assez facilement l'aider à aller à faire une introspection et assez facilement et puis ils ont, c'est pas du tout le même type d'introspection parce que il y a dans leur psychisme le bon Dieu il est trop présent tu vois, donc la place qui reste pour l'humain et donc c'est très facile après de remplir ça de choses concrètes et sensé et puis donc ça va assez vite tu vois, parce que quand il croit que tout ce qui leur arrive vient du ciel et forcément c'est il faut leur démontrer que voilà ça c'est vraiment pas du ciel quoi ça.
Alors que les Européens
ils ont une forme de suffisance et parce que bon ils ont il y a pas de religiosité ils ont, et du coup en s'échappant de la religiosité ou des religions et ils s'échappent aussi des liens spirituels qu'ils peuvent avoir avec les autres donc du coup il y a une confusion comme si la spiritualité était parce qu'effectivement, les religieux se sont accaparés la spiritualité pendant très longtemps. Et du coup, il faut maintenant que les psychanalystes, les philosophes arrivent à refaire vivre la pensée tout en faisant abstraction. Questions religieuses et du coup en supprimant la religion en s'éloignant de la religion ils sont éloignés du même coup de la spiritualité et ils sont aussi éloignés de certaines règles morales entre guillemets mais et parfois même ils s'éloignent de l'éthique. Et du coup, ça devient très compliqué. Et sans éthique, tu ne peux pas vivre.
Tu penses qu'ils viennent chercher de l'éthique, par exemple, ici ?
Ici, ils viennent chercher, en tout cas, une... Ici, c'est tellement c'est facile de s'inscrire dans quelque chose de juste, entre guillemets, et de réglo, voilà. Et... dans le sens où ils ont une... en se faisant, comme par exemple chez Jesuit Camp, un petit salaire ou en gagnant le SMIC et en ayant Bac plus 7 et en touchant le SMIC, et forcément tu te mets à la place des précaires, aussi d'une certaine manière. Et en même temps, tu dis quelque chose dans ta propre société et tu dis que voilà, moi, je ne me soumets pas à cette soumission dont je parlais au début, je ne me soumets pas à cette, à ce désir, à cette croissance fulgurante. J'ai envie de, voilà, de faire un break, une pause dans ma vie et ou essayer de trouver donc d'autres valeurs et donner un autre sens à ma vie. Mais ils y parviennent difficilement et ils y parviennent souvent avec beaucoup de, oui, de douleur, de souffrance, ils font l'expérience parce qu'on leur a des choses qu'on n'apprend pas dans la culture occidentale. Parce qu'il y a une telle abondance, une telle suffisance que c'est presque impossible de faire découvrir, de faire respecter par exemple un enfant la nourriture, alors que quand les placards sont remplis, le frigo est rempli, à toute heure du jour, de la nuit, il est tout à sa disposition. Et lui faire comprendre qu'il y a des personnes qui meurent de faim et lui faire comprendre qu'il faut avoir un respect pour la nourriture. Il ne comprend pas quel respect avoir vis-à-vis de la nourriture. Il ne comprend même pas ce que c'est respecter une nourriture.
C'est presque impossible de comprendre.
Impossible de comprendre. C'est impossible.
Oui.
C'est impossible. Et là, du coup, ça... ils grandissent comme ça et du coup ils ont aussi beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe dans la vie des précaires. Ça les aide un petit peu en les rencontrant ici, ils découvrent un petit peu, voilà, ça leur donne une certaine humilité, mais ça ne change pas fondamentalement. Ils viennent avec leur souffrance, leur fardeau qu'ils colportent de leur maison. Et ils arrivent ici avec ça, ils ont envie de s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre, mais ça les poursuit. Parce que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Parce que ce fardeau, il est... Quand tu arrives ici et que tu veux vraiment tout de suite t'en débarrasser, parce que le milieu est propice, ça te... Ça s'alourdit encore plus parce que ce que tu apprends, ce que tu découvres ne te permet pas. Tu n'as pas le recul suffisant, tu n'as pas le logiciel pour pouvoir le décrypter et l'intégrer dans ta propre vie, dans ton propre vécu. Et ça ne t'apporte pas grand-chose.
Les équipes de Yesu Camp, Plateau Urbain, c'est que les Européens.
Ouais,
il
n'y
a aucun Africain.
Quasiment, oui.
Aucun.
Ouais. Ils reproduisent sa société telle qu'elle est. Les Africains, les Maghrébins, ils sont pas... En même temps, c'est compliqué de dire qu'ils ne sont pas représentés, c'est pas ça. C'est que ce serait un procès d'intention de dire que oui, on ne les met pas dans le coup, ils ne sont pas... c'est pas parce qu'on ne les met pas dans le coup qu'on ne tient pas compte de leur présence et de leur existence, c'est pas ça. Mais... pour être pour un Africain, être dans le dans une sphère où de avec une certaine hiérarchie ou avec un certain niveau, il faut d'abord avoir les diplômes, les compétences et être dans des réseaux qui s'y prêtent et être meilleur que les autres pour être choisi. Il faut que tu sois meilleur. Mmh. Sinon, tu ne peux pas. Ça ne passe pas. Mmh. Si tu es un black journaliste, il faut que tu sois meilleur, pour pouvoir prétendre. Alors, comme il y a énormément d'autres qui prétendent à ce poste-là et que rien ne permet de dire que tu es meilleur, donc tu as peu de chance de, parce que tu es d'une autre communauté et d'une autre que couleur. D'une, et forcément, ça dénote et ça fait peur. Ce qu'on ne connaît pas fait peur. C'est une forme de réticence qui peut s'entendre, qui peut se comprendre. Et maintenant, si on parle d'égalité, de fraternité, bon, je ne crois pas trop à cette notion-là, à cette devise-là. Parce que la liberté, il faut savoir, on peut légiférer sur la liberté. L'égalité, on peut légiférer sur la légalité, sur l'égalité, mais on ne peut pas légiférer sur la fraternité. Mmh. Je ne peux pas m'obliger à être frère avec toi et aucun contexte là ne peut m'amener à être frère avec toi.
Ce que tu penses qu'ici, par exemple, c'est justement tenter la fraternité?
Oui, ils ont tenté, ils ont tout tenté. Ils ont tenté, en tout cas, ce qui est facile et accessible, ils ont tenté le voisinage. Et effectivement, d'ailleurs, ils ont bien vu, donc les grands voisins, et on est voisins. Ouais. Et un voisin, ça ne m'engage à rien d'être ton voisin. On s'est retrouvés à loger tout près l'un de l'autre. Et je ne suis pas tenu à partager avec toi. Au nom de quoi j'aurais à partager quoi que ce soit avec toi, alors qu'on est juste voisin. Même avec mon voisin de palier, j'ai vu pendant 40 ans, je ne connais pas mon voisin de palier. Je ne connais pas son prénom. Et son nom de famille, c'est parce que j'ai vu marqué sur sa porte. Et d'ailleurs, c'est comme ça que ça fonctionne. Je ne peux pas t'obliger à y aller. Le pôle qui décide, il décide en fonction de leur sensibilité, en fonction de leur croyance, en fonction de ce qu'ils sont capables de partager. Ils partagent plus. Un Dupont et un Durance partagent plus de choses qu'avec un Mamadou ou un Ablaye. Là où le problème surgit, c'est quand tu défends ton intérêt et qu'il y a un voisin qui défend un autre intérêt qui s'oppose à ton intérêt. Et comme c'est le plus fort qui l'emporte, voilà, c'est lui qui est plus proche des autorités, des décideurs, et c'est lui qui l'emporte.
Comme ici.
Mais c'est exactement pareil. C'est comme ici. Si une structure a des problèmes avec les responsables d'Aurore, et cette structure est amenée à disparaître, à quitter en tout cas le lien. Et avec Yesuicamp, tu quittes les liens. Avec Plateau Urbain, tu quittes les liens.
C'est pas eux qui quitteront.
Non, c'est clair. Si eux, ils ont un problème, quel qu'il soit, et qu'ils n'ont pas envie que telle personne reste, la personne ne reste pas. Ils trouveront une cause quelconque. Ils ont le même fonctionnement que dans la vie de tous les jours. Ça reste une poche agréable à vivre. Mais ça reste aussi complexe, c'est aussi compliqué, avec des normes qui sont nouvelles, et des manières de penser qui se disent nouvelles, des manières de faire plutôt, mais les manières de penser sont très archaïques, sont très traditionnelles. Tu as fait de l'urbanisme, tu as fait de la psycho, tu as fait n'importe quelle étude, et tu arrives ici et il faut que tu oublies tout ce parcours, tout ce processus, toutes tes difficultés que tu as vues, familiales ou pas, et venir se dire, mais maintenant je me mets à penser autrement et à penser en grand voisin. Il n'y a pas une pensée grand voisin. Quand tu vas à l'oratoire, on te dit offre un café à ton voisin. On ne dit rien d'autre avec ça. Sois gentil avec ton grand voisin, regarde ton voisin. Mais c'est assez facile de payer un café à 1,50€ à un voisin. Et puis, voilà, ça ne dit rien. Ça dit plutôt que j'ai les moyens de te payer un café et toi, t'es dans la merde, t'as pas les moyens de te prendre un café. Et j'ai dit ça en t'offrant comme ça. S'il n'y a rien qui sous-tend ça, et au niveau esprit, ça reste ça. Tu es plus riche que mon voisin, offre-lui un café. Ce serait bien que de temps en temps que les gens ici retrouvent un petit peu leur cocon familial et expérimenter, voir ce qu'ils ont vécu ici avec ce qu'ils prétendent être des richesses et qu'ils ont emmagasinées, comment les traduire dans leur vie au quotidien et comment traduire avec. Et leur proche, c'est un laboratoire très intéressant.
C'est vrai que ce que fait en permanence les Européens, le capitalisme, non ? C'est de toujours mettre ce qui t'enrichit, l'expérience qui t'enrichit, de toujours la remettre dans l'entreprise.
Ouais.
Tu vois ? De toujours la remettre dans un projet et jamais de la remettre dans ta vie de tous les jours avec tes proches, ta famille.
Et si tu le... Souvent ici j'entends des personnes dire oh là là, moi j'ai envie de couper un peu avec les grands voisins. Parfois je suis fort, parfois j'aime. Non, mais c'est pas les grands voisins qui font suffoquer, tu vois. Tu suffoques parce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui fait, ou dans ton travail, qui fait que tu sais pas que c'est pas l'espace grand voisin, c'est pas les relations, c'est pas ta relation à l'autre qui fait ça. C'est toi, tes propres difficultés à exister comme tu aurais aimé et à obtenir ce que tu aurais aimé obtenir dans ta vie et à te réaliser comme tu aurais aimé te réaliser. Et quand il y a des échecs comme ça, tu te dis, bon, il nous faut un petit peu d'air, un peu d'oxygène, couper un petit peu, aller voir des amis. Le risque, c'est que quand tu vas voir tes amis, tu ne leur parles que des grands voisins. De toutes les emmerdes que tu as, et de tes déceptions, de toute manière, et puis les autres vont te consoler. En te disant, et pourtant, voilà, tu vois, et donc tu vas chercher. Alors que si tu vas voir tes amis en leur faisant bénéficier de tout ce qu'il y a comme richesse, comme expérience positive, concrète, et là, ça les nourrit. Et demain, si tu as faim, tu arrives, ils auront de quoi te donner à te nourrir aussi. Que tu leur as déjà donné quelque chose et de consistant, et qu'il leur a appris des choses. Et C'est juste qu'ici, en Occident, on n'apprend pas les gens à capitaliser, à part l'argent. Mmh. En dehors de l'argent, d'une compétence technique, on sait capitaliser de la technique, on sait capitaliser de l'argent, mais on ne sait pas capitaliser de l'émotionnel et de l'affectif, et on ne sait pas.
Tu sais, il y a quand même aussi une chose que je trouve très étrange. C'est je comprends pas en fait cette volonté permanente d'être avec l'autre.
Oui, c'est cette volonté permanente d'être avec l'autre, c'est que tout simplement si tu es pas avec l'autre, c'est que tu n'aimes pas l'autre.
Non, c'est pas vrai.
Ça. Oui, non, mais c'est ça l'idée qui est véhiculée aussi. C'est que mais le problème, c'est que comme les gens, très peu de gens s'aiment véritablement, et forcément, ça peut les pousser à aller chercher chez l'autre de quoi s'aimer eux-mêmes.
C'est pervers.
C'est pervers, mais c'est en même temps, c'est un besoin. Si tu as rien. C'est Pierre Dac qui disait ça, si tu te sens pas bien, on va te faire sentir par quelqu'un d'autre. Et quand tu n'as rien, tu n'as pas besoin de l'autre parce qu'il est l'autre, parce qu'il est autre. Tu as besoin de l'autre pour toi, pour être autre. Parce que l'être que tu es ne te convient pas. Forcément, tu as besoin de termes qui sont utilisés, redorer son blason, se refaire une santé, se refaire ceci, se refaire cela. Et ça va jusqu'à se refaire son corps, se refaire, mais c'est se refaire un réseau, se créer. Tout ça, ça tient dans la même logique qui consiste à aller chercher l'autre pour exister.
Mais si on est trop au contact, on se perd, non?
Oui, mais on risque de se perdre, sauf si on est très solide et très costaud, et ou tu vampirises les autres, ou ils te vampirisent. Il y a des risques. Le risque, c'est vraiment en étant trop collé à l'autre, d'être bouffé ou de bouffer l'autre. Et comme c'est un univers où on n'hésite pas à se bouffer, et forcément, on est des anthropophages. On a l'occasion de bouffer l'autre, on n'hésite pas.
Alors ici, on se bouffe tout le temps.
Oui, oui, on se bouffe. Et,
ça vous dérange pas, c'est le même à côté de
moi. Bon, on est en train de...
Pourquoi j'avais pas vu? Excuse-moi, vous êtes pour moi.
Et puis cette ouverture dans le travail, on ne sait pas quand est-ce que les gens travaillent. Et c'est ça la difficulté, du coup il n'y a pas de limite. Là on travaille, on fait un boulot, tu travailles sérieusement et moi je suis inscrit dans ton travail que tu me proposes. Et quand tu vis ici, tu sais qui sont les gens qui travaillent, même en étant dans une cour. Et ils sont dans une réunion de travail et quand quelqu'un vient, là lui c'est pas possible, il est jamais là où il faut, il se fait, et on va le juger alors que c'est
nous,
c'est l'espace qui n'est pas approprié. C'est pas parce que c'est un espace libre qu'on doit pouvoir travailler librement partout.
En fait, on fabrique de fausses informations.
Oui, oui.
Mais c'est vrai que là, le garçon qui est venu, il pourrait aller comme ça de table en table et pas savoir si là les gens sont en travail ou s'ils sont juste en train de.
Il n'a pas le code.
Il n'a pas le code.
Il n'a pas le code. Et plus il le fait, plus il devient fou.
Ouais.
Et parce qu'il se sentira rejeté. Là, on l'a rejeté d'une manière ou d'une autre, ça a été un rejet. On lui a refusé d'être avec nous. Voilà. Donc on l'a rejeté. Et maintenant, on pourrait dire, non, on lui a dit gentiment qu'on était, qu'on travaillait, et que voilà. Mais on l'a rejeté. On pourrait lui dire, mais tiens, tu peux t'asseoir, et puis qu'est-ce que tu penses d'ici de... Et puis, il peut me porter la contradiction, et il peut te poser une question très pertinente qui, à laquelle tu n'avais pas pensé.
Parce que c'est compliqué, on ne peut pas être toujours ouvert.
Non, on ne peut pas. Mais c'est l'impression, l'idée qu'on se fait d'ici, quand on arrive, on a un peu... Oui, on doit être disponible, ouvert 24 heures sur 24. Et que le privé, il est presque secondaire, parce que le privé est tellement bouffé. Surtout ceux qui travaillent ici et vivent ici, quoi. Pour eux, c'est les... Là, des ISUCAM, ça doit être terrible par moment. Mais une fois que tu as le code, c'est bon. Tu traces ton chemin. Mmh. Après, tu ne dois plus rien à personne, tu n'as plus rien à faire avec personne.
Ouais.
C'est ça, être autonome et être libre.
C'est avoir le code.
Oui, avoir le code.
C'est le plus difficile à acquérir.
Ah oui, c'est très difficile, c'est compliqué. Parce que le code personnel est fixe et mais il faut savoir l'extraire des échanges, qu'est-ce qui fait code. Il faut savoir maintenant décrypter et retrouver ce code-là.